Bonjour à tous, il est 11h et c'est l'heure d'une émission spéciale sur Jean Giono.
Oui, bonjour Evan, bonjour à tous. Quarante-huitième numéro de l'émission consacrée à Jean Giono avec un beau sommaire avec nos invités Jacques Ménie et Catherine Soulard. Nous parlerons des 12e rencontres Giono qui se dérouleront à Manosque du 2 au 6 août avec pour thème les animaux, les hommes dans l'œuvre de Jean Giono. Nous parlerons aussi du 10e numéro de la revue Giono, de l'acquisition de la bibliothèque du Paraïs. Nous entendrons aussi le comédien Samuel Labarthe à propos de la dame à la calèche qu'il a donnée l'an passé à Jean Le Bleu et également une interview du photographe Hans Sylvester qui raconte sa venue à 22 ans à Manosque pour demander à l'auteur de Colline d'écrire une dédicace pour son premier livre. Giono écrira un texte magnifique pour Camargue qui a contribué à lancer la carrière du photographe. Près de 60 ans plus tard, les souvenirs d'Hans Sylvester sont intacts. Enfin, bien sûr, moment émouvant, nous entendrons aussi la voix de Giono dans un entretien réalisé en 1954 où il évoque la vieillesse. Bienvenue en terre gionienne. Bonjour Jacques Ménie.
Bonjour François.
Le président de l'association des amis de Jean Giono, mon complice de ses premières émissions, et on en est déjà à la 48e Jacques. Nous allons avoir un beau sommaire, nous avons un beau sommaire avec beaucoup d'invités, puis on a aussi Catherine Soulard qui est avec nous. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir ici même, on va vous entendre lire tout à l'heure, et vous nous parlerez certainement d'un certain Jean Giono. Jacques Ménie, la 10e édition de la revue Giono est sortie, elle est toute chaude.
Oui, elle est sortie il y a quelques jours et bon, comme vous le savez, la revue de l'année fait souvent écho depuis 10 ans, c'est quand même 10 ans là, maintenant déjà de revue, au thème des rencontres Giono précédentes. Donc comme l'année dernière, le thème des rencontres Giono, c'était Rome et l'Italie, nous avons une revue très 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 italienne, même presque totalement italienne.
Avec pas mal de relations, notamment avec des Italiens. Giono qui est allé en Italie, il a mis du temps d'abord avant d'y aller.
Alors il a mis du temps avant d'y aller, il y allait effectivement pour la première fois en 1951, mais au fur et à mesure des recherches pour les rencontres Giono et pour la revue, je n'ai pas cessé de découvrir de nouveaux voyages de Giono en Italie. Le dictionnaire Giono en annonce 7, moi j'en suis à 13 déjà. Y compris des voyages qu'on ne connaissait pas du tout et que j'ai découvert dans des petits documents. Par exemple, il y est allé une fois pendant une semaine au moment du tournage de L'Eau Vive pour accompagner les techniciens qui allaient chercher des projecteurs qui n'arrivaient pas de Rome et qui étaient livrés par la coproduction italienne du film. Du coup, il en a profité pour faire tout un circuit entre un certain nombre de villes. Voilà un voyage italien de Giono qu'on ne connaissait pas. Il y a eu des voyages très curieusement oubliés. Alors qu'ils étaient là dans les documents, en particulier le dernier voyage à Rome en 1968, qui a été oublié dans toutes les biographies et bibliographies, et qui a donné un très beau texte qu'on redonne ici, Les approches de Rome, où c'est un vieux monsieur qui sait que c'est la dernière fois qu'il ira à Rome parce qu'il est très malade, et qui se souvient de ses voyages successifs à Rome. Et Rome qui a été une ville que Giono a vraiment aimée, et c'est très curieux parce que c'est un point sur lequel on n'avait jamais vraiment fait un focus quoi.
Il y a dans la revue Jacques une photo de Jean Giono fumant la pipe sur les gradins pendant les Jeux Olympiques de Rome en 1960. Ça c'est une belle trouvaille.
Il a
Giono aux Jeux Olympiques.
Oui, aux Jeux Olympiques et surtout, et ça il en a parlé plusieurs fois, y compris dans les entretiens avec Jean Carrière. Je crois qu'on l'avait même diffusé ce passage ici. Il a assisté à la fin du marathon. Et c'est vrai, on a montré les images l'année dernière de la fin de ce marathon et ce que dit Giono, on dit toujours il blague, il exagère, etc. Moi, je deviens très très méfiant. Il n'exagère pas toujours autant qu'on le dit. Et quand il raconte la fin du marathon, de ce, c'était un soldat de la garde du Négus, je crois, de l'empereur d'Éthiopie, qui a gagné. Et il dit, et ce berger, c'est un berger en effet, est arrivé frais comme la rose. Il a fait quelques pas et on voit les images. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Donc il n'a pas exagéré. Donc c'était il était absolument émerveillé par cette arrivée de fin de marathon. Et alors on le voit aussi à côté d'un prêtre ou d'un prélat, en tout cas assister à ça, c'était assez curieux. Il s'est noué à travers les relations que Genot avait à Rome, chez qui il logeait. C'était un grand promoteur bâtisseur qui s'appelait Achille Talenti. C'est lui qui a, en particulier, était le bâtisseur du ministère des Affaires étrangères italien, qui est toujours le ministère des Affaires étrangères italien, qui est le plus grand bâtiment d'Italie, je crois. Et bon, ce Talenti avait comme ami le cardinal Ottaviani, qui était une des grandes figures du Vatican. Et Genot est devenu très ami avec le cardinal Ottaviani, d'ailleurs, dont on a des petites brochures religieuses dédicacées à Genot dans la bibliothèque du Paraïs. Ça a été une curieuse rencontre, hein, mais Genot parle souvent, un prélat de mes amis, alors tout le monde dit, oh, Genot n'a jamais connu de prélat, mais si, il était très lié à Ottaviani. Bon, c'était une des choses qui s'est passée en Italie. Il ne faut pas oublier que l'Italie, il l'a connu grâce à Lucien Jacques aussi, Rome, il l'a connu mieux grâce à Lucien Jacques, qui, sauf pour le dernier voyage de 68, puisque Lucien était décédé en 61, a toujours été du voyage avec Élise et Jean Giono. Mais vraiment, il a écrit des choses magnifiques sur Rome qu'on a tout entendu l'année dernière, au cours de lectures, au cours des conférences. En particulier, dans un texte qui s'appelle La Pierre, il décrit certaines églises de Rome où il aurait envie de vivre quasiment, qu'il aurait envie d'acheter. Et c'est magnifique la manière dont il parle de la lumière, des couleurs de Rome. Et il a une approche d'une telle sensualité de Rome que vraiment, c'est vraiment parmi des très très beaux textes qu'il a écrit sur l'Italie. C'est sur Rome aussi.
Vous avez parlé de Lucien Jacques, il y a des photos magnifiques où on retrouve Lucien en Italie, il y a aussi des très belles photos avec sa famille, avec Sylvie et Gérard Durbet, qui deviendra son époux, sur une gondole à Venise, avec Giono également en gondole. Et puis ici à Manos, comment ne pas parler de Frumento et de Voghera, bien sûr, la ville jumelle avec Manos, et Giono à l'époque qui était membre du Rotary et qui a tout fait pour tout simplement faire que Manos et Voghera se rapprochent. Il en a profité pour écrire un livre à part dans son œuvre, Jacques.
Oui, c'est-à-dire qu'il a même attendu d'aller à Pavie, parce que Pavie est à côté de Voghera, pour répondre définitivement à la proposition de Gaston Gallimard d'écrire un livre sur la bataille de Pavie pour la collection Les 30 journées qui ont fait la France. Et en effet, l'amitié avec Frumento, fabriquait des frits confits et était en voyage à Apt, qui est aussi un centre de production de frits confits. Et puis, au passage, il s'est arrêté au Rotary Club de Manosque et il a fait la connaissance de Genot. Amitié spontanée. Et après, les Frumento et les Genot se sont vus très très souvent à Manosque ou à Voghera. Et c'est très amusant quand même, parce que quand Gaston Gallimard, en avril 58, propose à Genot d'écrire donc sur Pavie, je nous dis, j'attends, je vais d'abord aller à Pavie voir un peu respirer l'atmosphère.
Et il
part presque immédiatement pour chez les Frumento, et il revient et il écrit à Gaston Gallimard, c'est d'accord, j'ai vu Pavie, on va le faire.
Et il a écrit un livre magnifique,
un de ses grands livres,
historique
oui.
En plus.
Oui, oui.
Assez étonnant.
Un de ses grands livres, oui.
Assez étonnant.
Oui.
Vous avez dit l'année dernière, c'était l'année de l'Italie, et vous y revenez dans la revue, Jacques, l'année dernière, il y a eu aussi un grand moment, c'est la lecture de La Dame à la Calèche, un texte surprenant, d'une belle arnaque par Jean Giono, lecture par Samuel Labarthe. On a eu le plaisir de passer la soirée ensemble, vous y étiez bien sûr, et j'ai interviewé Samuel Labarthe. Une interview un petit peu particulier puisqu'on était encore sous le choc de ce texte très bizarre. Et Samuel Labarthe, c'est une voix que chacun connaît, évidemment. Je vous propose d'écouter cette interview, puis on reparlera un petit peu de la revue et on se retrouve tout de suite après. Samuel Labarthe. Samuel Labarthe, cette histoire de la dame à la calèche vous a-t-elle plu ?
La Dame à la calèche, c'est le premier titre. En fait, c'est l'aventure où la foudre et le sommet paru dans Marie-Claire en 54. J'étais pas né, malheureusement. Mais je dis malheureusement parce que c'est quelqu'un que j'aurais bien aimé rencontrer, vraiment. On rencontre des écrivains en les lisant, mais en les rend vivants le temps d'un soir, justement, en lecture, parce que la pensée, elle, ne meurt pas, en tous les cas. Il faut la retrouver. C'est notre métier d'alchimiste, en fait, en tant qu'acteur, c'est d'arriver à réinsuffler de la chair et du sang dans des mots, dans une pensée, dont la personne qui l'a écrite n'est plus là aujourd'hui. Mais oui, pardon, je reviens à votre première question. Cette histoire m'a plu.
Et vous avez en plus été accompagné par deux musiciens merveilleux au piano et au violon qui soutenaient à la fois et qui illustraient avec des musiques de films, notamment de Nino Rota, mais pas uniquement, des musiques de Corelli aussi. Un mélange surprenant et en même temps une osmose particulière.
Bah écoutez, c'est une recette que Jacques Méni sait faire depuis quelques années, qui fonctionne, parce que franchement, ce sont des musiciens hors pair, ils ont fait une transcription absolument extraordinaire de musique de film et d'autres partitions. Ça a illustré particulièrement l'histoire de cette Dame à la calèche, qui est très sinueuse, qui a beaucoup d'étapes, et qui, de virage en virage, nous emmenait dans des espèces d'illustrations sonores très forte et très bienvenue, vraiment. Je me souviens de la répétition cet après-midi, c'était tout frais, je les entendais jouer, je me disais comment je vais lire derrière ça, ils jouent tellement bien.
Ils devaient se dire exactement la même chose pour vous, de votre côté.
Non, justement, c'est ça qui les a surpris, c'est que moi j'ai fait une italienne cet après-midi. Une italienne, dans le jargon de comédien, c'est on déchiffre la partition, enfin je la déchiffrais pas puisque j'avais lu plusieurs fois, mais je me la mettais en bouche, mais sans y mettre toutes les intentions, les silences, je me préparais. Comme un sportif se chauffe, on va dire, mais il fait pas la course. Et donc ce soir, ils ont été assez surpris d'entendre la lecture comme ils l'avaient pas entendue cet après-midi. Mais on fait tous le même métier, enfin en tant qu'artiste en tout cas, il faut délivrer une histoire et délivrer une émotion. Eux l'ont fait de leur côté tout de suite, et puis Dieu sait si c'est un travail. D'être musicien à haut niveau, Dieu sait ce que ça représente d'heures et d'heures d'apprentissage, de gamme, c'est un métier. Les gens s'en rendent pas compte, mais c'est hallucinant. C'est comme la barre de la danseuse, on la voit pas, mais nous non plus, notre travail, on doit pas le voir. Personne doit voir le travail dans nos métiers, mais on doit délivrer de l'émotion.
Dans ce texte aussi, il y a énormément d'humour.
Oui, bah ça, Giono, heureusement, on était bien friands, heureusement, parce que c'est vrai que c'est une histoire d'arnaque, puis c'est une arnaque, un coup monté, s'il n'y avait pas cet humour particulier qui vient justement au moment où on s'y attend le moins, paraîtrait très, très, très cruelle et très froide et très inhumaine. Et grâce à l'humour qu'il y met, l'ironie d'ailleurs, c'est un officier de police à la fin de l'histoire qui donne un tout petit peu la morale de l'histoire en disant, voyez, je vois, j'assiste à beaucoup de délits, je sais qu'ils vont pas jusqu'à tuer, je les laisse faire. J'ai pas vraiment les dents pour croquer des contraventions. Donc je regarde tout ce petit monde et ça me donne cette espèce de distance par rapport à la vie et à cette banalité qui nous entoure et de cette ironie qu'il faut avoir par rapport à ce monde d'aujourd'hui. Je trouve que cette morale est très jolie et ça reste tout à fait d'actualité.
Vous êtes Samuel Labarthe, un comédien et un acteur de cinéma, télévision et également de séries qui sont bien connues. Vous avez donc une notoriété importante et pourtant vous prenez le risque de lire Jean Giono sur scène ici même à Manosque.
Alors, oui, je sais pas. Merci pour ce kaléidoscope, mais un acteur pour moi, enfin comédien d'ailleurs, je sais jamais comment me définir si je suis acteur ou comédien. Acteur, c'est peut-être plutôt du côté du cinéma ou de l'image, et comédien plutôt du côté du spectacle vivant. Mais mon vrai plaisir, et ce qui continue à rester mon vrai plaisir, c'est le théâtre vivant. Et si on est coupé de ça, c'est bien dommage, parce que c'est d'abord le contact avec les autres, c'est d'abord le partenaire qu'on découvre que le soir de la première ou de la lecture. Une fois, c'est le public, et sans le public, ben on n'est rien. Donc moi, j'aime cette histoire de partage. J'aime beaucoup d'abord partager, transmettre, même un soir, une histoire qui me plaît, que j'ai envie de raconter, d'emmener les gens. Et je trouve ça tellement magique de faire ça que ça me paraît tout à fait, comment dire, naturel. En fait, c'est tout simplement ma passion. Donc j'aime beaucoup être aussi mobile et de passer d'un genre à l'autre, d'une grammaire à l'autre, d'une syntaxe à l'autre, de doubler, d'enregistrer des livres, d'être au cinéma, d'être au théâtre. Je trouve que chaque exercice est un petit peu la récréation de ce qu'on vient de faire et de rester mobile en état vibratoire comme ça et de rester en vigilance et de rester ouvert surtout, ouvert. On doit être une sorte de toile blanche, vous voyez, à chaque fois sur laquelle on est capable de refaire un tableau.
Vous avez parlé du doublage à l'instant. C'est vrai aussi que c'est un exercice que vous pratiquez régulièrement. Et pour moi, c'est assez bizarre quand même d'entendre Georges Clooney me répondre.
Je ne m'attendais pas du tout à ça parce que la voix de Georges Clooney, c'est la voix de Georges Clooney. Alors forcément... Moi, par exemple, j'aimerais pas me voir doubler dans un film. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est pas ma voix, je trouverais ça vraiment très, très bizarre. En même temps, tant mieux, grâce à cette tradition française, beaucoup de gens peuvent accéder à des films. Puis dans notre pays, ça existe aussi, mais c'est quand même une spécificité française. On a une spécialisation de doublage et avec des gens qui sont très, très pointilleux, très perfectionnistes, qui veulent absolument, sur les ouvertures de bouche, correspondre le plus possible. C'est un vrai métier, hein. Et moi, c'est cette technicité et cette concentration qui me plaît beaucoup. Donc j'aime beaucoup. Mais je vous rassure, Nespresso, c'est pas moi.
Samuel Labarthe, dernière question. Nous sommes ici dans la maison de Jean Giono au Paraïs. Vous ressentez des émotions particulières?
On ne peut pas s'empêcher de ressentir des émotions très fortes. Très très fortes, parce que tout est là. C'est hallucinant. J'ai eu la chance en plus de me faire voir les pièces principales de la maison, les deux bureaux d'en bas, le bureau mansardé en haut, avec Sylvie, sa fille, et c'est d'une émotion rare. Je m'attendais absolument pas à rencontrer toute cette histoire d'un coup. C'est très très fort. Je partirais avec l'image, en tout cas, de sa main moulée, cette main qui a tellement passé sa vie à écrire, à aimer, et puis de voir le lien qu'il entretenait constamment avec ses racines, à savoir le petit marteau de cordonnier de son père, et sa table de travail qui était dressée sur la table à repasser de sa mère. C'est quelque chose qui me touche absolument, c'est à pleurer.
Samuel Labarthe, qui avait donné une superbe dame à la calèche l'année dernière lors des rencontres Giono. Revenons à la revue qui vient de sortir, Jacques Béni. C'est une revue qui parle aussi peinture et qui parle, et où notre ami Alain Bauer a fait un travail remarquable, qui parle mandarin. C'est ça?
Oui. Donc il y a
un aspect sur la Chine, Giono et la Chine.
Il y a deux textes dans la section documents. En effet, un texte sur la relation de Giono à la peinture italienne, d'ailleurs avec quelques très belles reproductions. Voilà. Et puis une étudiante de Christian Morzewski à l'université d'Artois, qui prépare une thèse sur Giono, nous a donné un texte sur la réception, la traduction de Giono en Chine. C'est vrai que, bon, à l'échelle de la population chinoise, c'est peut-être peu, mais à l'échelle du rapport entre une œuvre littéraire et la Chine est très en pointe sur pour les traductions, hein, qui sont assez nombreuses ces derniers temps, ainsi qu'en Corée d'ailleurs, et surtout pour les thèses. Il y a plusieurs thèses qui ont été soutenues en Chine même, et d'autres soutenues en France par des étudiants chinois sur l'œuvre de Jean Giono.
Avec notamment un accent sur tout ce qui concerne l'écologie.
Absolument. Donc Luk Sun, que je connais, qui était là l'année dernière d'ailleurs pour les rencontres Giono, et que je compte sans doute inviter dans 2 ans, puisque ça risque d'être... J'ai le projet, en tout cas, de traiter dans 2 ans ce thème du rapport de... Alors, il faut trouver un mot autre qu'écologie, parce que l'écologie n'existait pas au sens où nous l'entendons aujourd'hui du temps de Giono. Mais enfin, autour de l'éco-poétique, l'éco-critique, la sauvegarde de la nature, même du patrimoine, ce sera probablement le thème des journées Giono dans 2 ans. L'année prochaine, c'est les héroïnes romanesques.
On peut dire le gionisme naturel, peut-être.
Le gionisme naturel, oui, c'est ça, voilà. Bon.
Jacques, il y a aussi quelque chose qui parle à tous les basalpins. Évidemment, c'est la relation entre Giono et Ernest et Maria Borelli, surtout, où on accompagne ce couple particulier et emblématique du département des Basses-Alpes à l'époque, dans sa relation avec Jean Giono.
Ah bah c'est une amitié qui commence en 1929 vraiment et qui va aller jusqu'à la mort d'Ernest Borelli en tout cas, parce que dans un premier temps c'est évidemment Maria et Giono, c'est deux écrivains qui dialoguent, et puis après ça va être deux hommes qui dialoguent, c'est-à-dire et deux hommes pris dans les tourments de l'histoire et de la politique, puisque Ernest Borelli était un des responsables de la résistance du département et qu'il ne ménagera jamais sa fidélité à Giono. Ils seront des amis très très proches jusqu'à la fin de la vie de Borelli en 59, qui est devenu président du conseil général du département. Et donc il y a les deux aspects qui se croisent dans cette correspondance et dans l'assez longue introduction que je lui donne. C'est l'aspect littéraire, bien sûr. C'est l'aventure. C'est Giono qui permet à Maria Borelli d'être édité chez Gallimard, qui l'a fait lire à Gide, etc. Bon. Et donc, je signale que Jean Darroux, édition Parole, à Bauduen, ressort l'intégrale, plus un inédit intéressant, de Maria Borelli sous forme d'un coffret dans sa collection Main Femme. Et puis, il y a l'histoire politique, donc avec les combats des années 30, et c'est que les Borelli étaient très engagés. C'est chez les Borelli que Giono fait la connaissance de Louis-Martin Bray, qui va devenir le chef et le martyr de la résistance basalpine. C'est un milieu, et c'est Fillon, faut le dire, hein. Bon, qui sont à l'origine du journal Le Travailleur des Alpes, où, dans lequel Giono écrit dès le début des années 20. Là aussi, ça n'apparaît pas dans sa bibliographie. Et le problème, c'est qu'on n'arrive pas à avoir la consultation des documents. Mais il est probable que le premier texte que Giono écrit en prose, ce soit son texte sur Alémir Bourges et qui a été publié en 1920 dans Le Travailleur des Alpes.
Alors sur les époux Borelli, évidemment, il y a des passages croustillants, comme par exemple Ernest qui le remercie d'un petit coup de piston pour pouvoir être enseignant à Digne.
Oui.
Et il deviendra, vous l'avez dit, président du conseil général à l'époque, donc des Basses-Alpes. Je vais vous lire simplement un extrait d'une lettre. Vous verrez la puissance des rapports qui liaient les Borelli avec Giono. C'est une lettre du président donc du conseil général des Basses-Alpes, Ernest Borelli, écrite le 19 juin 1948 et qui commence ainsi: « Mon cher Jean, avec le recul des années, je me rends compte de ce que je te dois comme enrichissement, comme joie pure. C'est à cette période de puits-moissons que je songe, où cette modeste école de village a été illuminée, sanctifiée par ta présence. Ma reconnaissance est à la mesure de mon enthousiasme et de mon amitié que je t'ai donnée totalement. » C'est magnifique, Jacques. Ça, c'est une belle lettre.
C'est une belle lettre, et 1948, on sort à peine de la guerre, et c'est un des grands responsables de la résistance des Basses-Alpes qui écrit ça à Giono, ce qui apporte un démenti total au fait que Giono a été considéré comme un collaborateur par les vrais résistants.
Ce sont les années noires pour Giono, la fin des années 40.
La fin des années 40 sont les années à la fois noires et prodigieuses, parce que il va accoucher d'un chef-d'œuvre par an, presque, tout en composant le Hussard sur le toit, le chef-d'œuvre suprême, enfin bon, avec un roi sans divertissement. Quand on a écrit un roi sans divertissement et le Hussard sur le toit en 5 ans, on peut pas dire que ce soit une période noire, mais c'est une période difficile pour l'édition, mais pour ses revenus éditoriaux, disons, hein. Il a du mal à se faire éditer en 46-47, mais à partir de 48, c'est bien reparti. Là aussi, on en a beaucoup, peut-être trop fait sur cette période. C'est une période qui lui a été extrêmement bénéfique. En réalité, je crois que ces petits ennuis, bon, qui ont pu être des gros ennuis à certains moments, l'ont servi. Honnêtement, je pense que ça l'a servi.
L'un des gros mérites de cette revue, c'est justement de retrouver cette amitié sanctifiée, comme il dit, entre Ernest et bien sûr Maria Borelli et Jean Giono. Jacques, nous arrivons au moment de ma rubrique préférée, vous le savez, c'est pas quand on parle, c'est quand on entend parler cet immense écrivain qui était Jean Giono, c'est la voix de Giono.
Oui, nous revenons encore aux propos et récits tenus en 1954 par Giono devant le micro que lui tend Tao Samrouche. Je signale au passage que ces propos vont être édités par Gallimard à l'occasion du cinquantenaire de la mort de Giono en 2020. Parce qu'ils sont toujours restés inédits, tous ces récits que nous diffusons et que nous
entendons. Donc on pourra les lire, mais pas les entendre.
On pourra les lire tout en les entendant. Là, il parle de la vieillesse à travers l'exemple de cette fameuse Nini, la grand-mère d'Élise Giono, qui a vécu au Paraïs jusqu'à l'âge de 103 ans, et qui est une des grandes figures de la vie manosquine. Elle a eu longtemps son portrait dans la salle des mariages de la mairie de Manosque. Et donc, à partir de là, il parle de finalement des avantages de la vieillesse.
Bah, j'entends toujours autour de moi des gens dire: si je pouvais revenir à tel âge, si je pouvais, si j'avais 20 ans de moins, si j'avais 40 ans de moins, non. Moi, je ne me pose jamais cette question. Moi, je suis extrêmement heureux à l'âge où je suis. Je ne retournerai pas même de 6 mois en arrière, je suis très bien. Au contraire, j'aime aller comme ça en avant, vers cet admirable repos que sera la mort, qui est admirable, qui ne me fait pas peur. Je ferai peut-être comme tout le monde au moment précis où elle se présentera, c'est-à-dire que je mettrai mes mains sur la tête et je pousserai un grand cri, mais pour l'instant, elle ne me fait pas peur. Je
et crois cependant, qu'au contraire, vous aimez la vie.
Mais j'adore la vie, et c'est oui. Précisément pour ça que je trouve que c'est une terminaison logique et que c'est parfait. Mais voyez-vous, il n'y a qu'un moyen de faire supporter la vieillesse, disait Stendhal, c'est la gloire et une âme ardente. Alors, elle vaut peut-être mieux que la jeunesse, disait-il. Eh bien, moi, la gloire, non, n'en parlons pas. Parlons pas de gloire. Parlons
de l'âme
ardente. Simplement d'âme, même pas ardente. J'ai vu vieillir autour de moi. J'ai vécu souvent et de longues périodes de ma vie avec des gens âgés. Il n'y a encore pas très longtemps que ma femme me disait « Il nous manque maintenant une personne âgée à la maison. »
C'est la nini au moins.
Non, mais non. Une personne âgée en général. J'ai eu ma mère, que nous avons vue vieillir, il y a eu la mère d'Élise, et il y a eu la grand-mère d'Élise, qui était la nini précisément. La grand-mère d'Élise est morte à 103 ans. Lorsqu'elle avait 99 ans, elle avait eu un accident et elle s'était cassée le col du fémur. C'est l'accident qui arrive généralement aux vieillards.
Et ça ne pardonne pas en général.
Eh bien oui, généralement ça ne pardonne pas. Elle avait 99 ans, le docteur était venu. Nous avions transporté cette malheureuse nini sur une civière jusqu'à l'hôpital de Manosque. Et elle était là, couchée dans son lit. Le docteur vint me voir. Elle me dit, vous savez quand même, c'était le docteur de la famille qui nous connaissait tous, qui la connaissait elle aussi. Elle m'a dit, vous savez, à cet âge-là, 99 ans, le col du fémur, très vraisemblablement, elle ne verra pas la Noël. C'était en novembre, à ce moment-là. Je lui dis, écoutez, laissez-la tranquille, qu'elle ne souffre pas. L'important, c'est qu'elle ne souffre pas, ce qu'elle va souffrir. Il me dit, non, au bout d'un jour ou deux, la douleur va s'apaiser, puis après, il n'y aura plus de douleur du tout, elle sera seulement impotente. Mais je vous dis, à la Noël, certainement, elle sera morte. Or, elle a vécu encore 3 ans. Elle a vécu encore 3 ans, et au bout de 10 jours, elle a commencé, quand la douleur a été finie, elle a commencé à jeter autour d'elle de petits regards inquisiteurs et malins. C'était une adorable vieille personne.
Oh, comme une fleur.
C'était une femme charmante. Mais en même temps, c'était une femme qui était belle et qui portait sur elle les radiations de la beauté. Pour une femme aussi âgée qu'elle, elle avait des très lisse, une peau très lisse, avec à peine quelques rides, un joli petit nez et des yeux extrêmement malins. Ces petits yeux malins regardaient par exemple l'infirmier qui tournait autour d'elle et surtout s'étaient posés sur l'aumônier qui était venu lui rendre quelques petites visites et qui venait de temps en temps lui dire « alors grand-mère, et vous pensez un peu à Dieu, grand-mère ?»« Oh oui, lui dit Aligny, oh bien sûr !» Oh, je pense beaucoup à Dieu. Et là-dessus, en pointant un peu ses yeux, elle le regardait, elle lui disait, vous savez que vous êtes un bel homme, vous. Et oui, Lily, lui disait l'aumônier un peu gêné, en effet, je suis un bel homme, mais il faut penser à Dieu. Je pense à Dieu, disait Lily, je ne pense même qu'à Dieu, mais pourquoi ne vous êtes-vous jamais marié? Enfin, ça continuait comme ça, et elle lui disait, vous avez privé une femme de beaucoup de bonheur. Et alors là-dessus, le curé rentrait chez lui et ne disait plus rien. Mais il y avait également des petites sœurs qui faisaient le service, des petites sœurs charmantes qui venaient nettoyer la nini, lui mettre du linge propre, la pomponner, lui placer sa petite coiffe. Et généralement, elle disait à la petite sœur, elle lui disait, ah, ma sœur. Votre mari a les mains très douces, mais lui disait la sœur, je ne sais plus quel mari. Mais la nini désignait ainsi l'infirmier qui était avec la sœur et qui la soignait. Mais elle lui disait la sœur, ça n'est pas mon mari. Ah, c'est pas votre mari, quel dommage. Et la sœur lui disait, mais nini, mais grand-mère, je suis mariée avec Dieu. Ah, bougre, disait la nini, ah, mariée avec Dieu. Eh ben, vous ne vous mouchez pas du coude, vous. Elle lui disait, mariée avec Dieu. Okay. Enfin, cette femme a été autour d'elle, répandait à la fois la joie, le plaisir, la petite malice. On aimait se trouver à côté d'elle. Si bien que, auprès du lit de cette femme âgée qui, d'après le docteur, allait mourir, les gens se réunissaient et venaient là, les autres personnes de qui étaient dans la salle de l'hôpital, venaient, prenaient leurs chaises, venaient s'asseoir à côté de la Nini, elle leur parlait. Elle trônait, je suis arrivé quelquefois à l'hôpital pendant que ce phénomène se produisait, elle trônait là exactement comme une reine au milieu de sa cour, disant un petit mot gentil à un petit mot gentil à l'autre, et puis enfin, il a été prouvé que la Nini ne mourrait pas. Alors, on l'a ramenée à la maison. On l'a couchée à la maison, au premier étage. Et là, elle a continué à regarder vivre la famille avec grand plaisir, regardant par sa petite fenêtre, regardant Aline, regardant Sylvie, qui était un petit bébé, nous regardant vivre comme ça.
On lui mettait Sylvie souvent à côté d'elle, je crois.
On lui mettait Sylvie souvent à côté d'elle. Moi, j'avais pris l'habitude de lui apporter de temps en temps en cachette un peu de tabac à priser, qu'elle aimait beaucoup.
Mais en cachette
En cachette, parce que Elle avait décidé à 100 ans qu'elle ne priserait plus parce que ça salissait son nez. Alors elle ne voulait plus priser. Mais je lui portais quand même un peu de tabac prisé. Je la tentais un peu. Je disais, alors Nini, un petit peu de tabac prisé, ça ne peut pas vous faire de mal. Et puis après, vous vous essuyez votre mouchoir, personne n'y verra rien. Elle me disait, regarde un peu si on ne me voit pas ou si on ne me guette pas de l'escalier. Alors j'allais regarder. Je disais, alors Nini, vous êtes tranquille. Alors elle prenait rapidement une petite prise. Elle l'a humée et là, elle était dans le bonheur le plus parfait.
Et elle le répandait, ce bonheur.
Ben, tout naturellement, sans essayer de le répandre.
Bien sûr que non, elle est comme une pomme, quoi. Elle sentait bon.
On voulait la distraire un peu, elle y voyait encore avec ses lunettes, elle mettait ses lunettes de fer et elle avait un énorme livre de peut-être 3000 ou 4000 pages qui était composé de la façon suivante. Nous avions dans une grande malle au grenier des livraisons de la Veillée des Chaumières qui publiait les romans de Dumas. Il y avait, je me souviens, la belle Margot, le comte de Montsoreau, les trois mousquetaires, il y avait aussi Bras de Fer, il y avait des quantités de romans qui suivaient comme ça les uns après les autres.
Mais c'était relié, ça?
Non, toutes ces livraisons étaient dépareillées. Alors elle les avait mises les unes à côté des autres et elle lisait à la suite un feuilleton de la Dame de Montsoreau, puis ça s'embranchait sur Bras de Fer, ça s'est puis Bras de Fer s'embranchait sur la porteuse de pain l'embranchait à la reine Margot, et ainsi de suite. Comme ça, elle le lisait, et elle disait, c'est extraordinaire, ça se passe dans tous les temps, ça se passe partout, c'est extrêmement curieux, extrêmement agréable de lire ça.
Et sa lucidité est restée parfaite jusqu'à la fin.
Sa lucidité est restée parfaite jusqu'au moment où elle est morte, tranquillement, comme on s'endort.
Belle c'était vie,
à mon
quand
avis,
même.
Ah oui, c'est à mon avis l'exemple même d'une vieillesse qui pouvait s'intéresser encore à des quantités de choses et qui pouvait conserver le plaisir, la politesse d'être avec les autres, toujours une femme agréable. C'est-à-dire être toujours pour les autres autre chose qu'une mauvaise odeur. Être
ce
toujours
que vous dites dans
une bonne odeur. Mais la Nini, des quantités de vieillards que j'ai vus comme ça autour de moi, moi-même, qui suis aux approches de la vieillesse, et qui voit venir la vieillesse elle-même, sans terreur, absolument sans terreur, car je me rends compte que au moment même où les passions s'assoupissent, où les forces qui vous font, qui se font désirer pour les passions s'assoupissent elles-mêmes, on n'a plus tellement besoin d'avoir une vie ardente, comme disait Stendhal. Il est vrai que Stendhal écrivait ça encore assez jeune. Mais on n'a plus besoin d'ardeur, on a besoin au contraire d'une sorte de paix, d'une sorte de terrain plat, de sentiers passant dans des endroits agréables. Et évidemment, quand je dis toutes ces choses-là, de sentiers extrêmement agréables et de routes planes, je suis obligé de faire de petites restrictions quant à l'époque que nous vivons. Nous ne savons pas si nous pourrons toujours avoir des sentiers dans des bosquets ou des routes extrêmement ratissées et planes. On ne peut pas savoir. Mais même là, peut-être que la vieillesse, qui précisément privée de ses grandes ardeurs, de ses grandes flammes, peut-être que cette vieillesse réservera encore des grandes possibilités de bonheur. Enfin, il faut en tout cas l'espérer. On espère toujours. Quand on a justement
vous aurez
un
comme
certain
ça cueilli
don.
Les bonheurs de toutes les saisons.
Et oui, mais la vieillesse est une très belle saison. C'est un automne et un hiver. Moi, j'aime beaucoup les automnes et les hivers. Les printemps, ça vous apporte autre chose. Je crois que dans la vie, il faut précisément ne pas désirer ce qu'on n'a pas, mais aimer ce qu'on a. Si,
oui.
Étant vieux, vous désirez être jeune, vous serez malheureux. Si, étant vieux, vous acceptez d'être vieux, j'estime que vous devez avoir encore une grande partie de bonheur, facilement perceptible, et à portée de votre main. Je me souviens, tenez, puisque nous parlons de bonheur, je me souviens surtout d'éléments qui vous apportent le bonheur. Je me souviens d'une promenade. Oui, mon ami Lucien Jacques, nous étions partis, c'était chez des amis du côté de Brignoles. Ces amis nous avaient emmenés promener en voiture. C'était tout simplement une promenade d'après-midi qui avait été décidée brusquement à un moment où nous avions senti les uns et les autres que cet après-midi était ennuyeuse. Alors on avait dit, qu'est-ce que nous faisons? On s'était regardé, on avait déjà fumé assez de cigarettes, on avait déjà parlé de quantité de choses qui nous tenaient à cœur, nous avions tout épuisé, les possibilités de bonheur, croyons-nous, de cette journée, et nous avons dit, bon, allons faire un petit tour en promenade avec la voiture. Alors on avait pris une voiture, et la voiture du copain, et on était parti pour faire un petit tour d'une trentaine de kilomètres tout autour, dans des bois et dans des paysages que nous connaissions fort bien, qui peut-être ne pouvaient plus rien nous apporter, mais ils nous apportaient toujours quelque chose, parce qu'il y avait la couleur des lieuses, il y avait la couleur des pins, il y avait l'heure du soir, mais nous étions promis à une joie beaucoup plus grande que nous n'attendions pas, dans un petit village désert que je n'ai jamais plus retrouvé. Ça, c'est très curieux. Je n'ai jamais plus retrouvé ce petit village. Je l'ai cherché, à la fois avec Lucien, à la fois avec l'ami qui nous avait promené. Je l'ai cherché moi-même, de mon côté, très assidûment, chaque fois que je suis passé dans la région. Je n'ai jamais plus retrouvé ce village. Nous nous sommes trouvés sur la place même du village qui était désert, en face d'un petit palais, d'une petite maison du 18e à allure de palais, que nous avons immédiatement, et sans nous être concertés, appelé le petit palais Mozart. Car il avait l'harmonie, la grâce, la richesse et en même temps la puissance d'invention d'une phrase de Mozart. Trois petites marches de grès dans lesquelles poussait l'herbe et sur une espèce de petite estrade, sur l'estrade qui était faite par ces trois marches, ce petit palais entièrement désert, les portes dégoncées, on pouvait y entrer et y voyager, et de l'autre côté de ce palais, la fenêtre donnait sur un magnifique marécage rempli de grenouilles, de nénuphars et de joncs. Ça n'était pas préparé du tout, nous ne nous y attendions pas, et brusquement, toute notre vie, je peux dire toute notre vie, puisque j'y pense encore maintenant après 20 ans, toute notre vie a été parfumée, a été illuminée et embellie par la rencontre de cette magnifique maison à l'échelle humaine et en même temps d'une harmonie si puissante qui se trouvait là, sur la place de ce petit village.
Au point que vous l'avez appelé le Palais Mozart.
Je l'ai appelé le Palais Mozart.
Petit
Palais Mozart, nous l'avons tous appelé comme ça, tous les trois. Et c'est une de mes grandes propriétés, parce que j'achète des quantités de propriétés comme
en
ça.
En imagination, et puis tout le long de vos voyages en Italie.
Pourquoi dites-vous en imagination? Mais
non.
C'est en Espagne que ça se place d'habitude, ça.
Oui,
les palais
c'est ça,
sont
les
toujours.
Oui,
les palais à moi sont toujours en Espagne, mais ça ne me gêne pas. Le long de ce voyage-là, en Italie, nous avons acheté des quantités de maisons. Nous avons acheté
des
maisons que nous revendions, n'est-ce pas? Nous revendions des maisons que nous avons achetées à Brescia. Nous avons revendu quand nous nous sommes trouvés à Venise, parce que nous avons aimé des palais de Venise. Et après ça, nous avons revendu des palais qui se trouvaient ailleurs pour en acheter d'autres. Et nous avons comme ça de très grands domaines. J'ai comme ça de très grands domaines. Les domaines du marquis de Caraba. Je peux me promener à perte de vue dans des forêts qui m'appartiennent parce que je les compose, parce qu'elles sont non seulement les forêts que j'ai vues, les véritables forêts avec leurs arbres et leurs couleurs et leurs parfums, mais des forêts qui ont également mes couleurs, mes odeurs et mes parfums, mes propres chemins dans lesquels je rencontre mes propres animaux sauvages.
Et vos personnages.
Et mes personnages. Et tout ça est composé avec l'immense moisson qui a été faite pendant tous ces temps passés, avec le bonheur de tous les temps passés.
C'est ce qui constitue au moins votre univers jeunesque.
À mon avis, pourquoi jeunesque?
C'est
un nom tellement désagréable. Il n'y a pas d'univers jeunesque, il y a l'univers que je me fais, moi. Il y a l'univers que je me fabrique, et dans lequel je vis, et dans lequel je fais rentrer ces personnages qui ont besoin d'une dimension nouvelle pour devenir les personnages capables d'habiter ces forêts qui ne sont pas des forêts réelles.
Retour en plateau sur Jean de Manosque, et on vient d'écouter évidemment ce fameux Jean de Manosque, Jean Giono, parler en plus, Jacques Méni, d'animaux. Ça tombe bien, les animaux qu'il crée.
Oui, des animaux qu'il crée, des animaux qu'il observe, des animaux qu'il fait parler parfois, comme dans le Chant du Monde.
C'est le thème des rencontres Giono.
Voilà, parce que c'est une œuvre peuplée d'animaux. Alors bon, je sais, le thème animalier est très sociétal, comme on dit en ce moment, mais aussi très, très présent dans la littérature, et les études littéraires sur les animaux que ce soit dans les littératures du passé ou la littérature contemporaine, sont absolument en expansion. Ça, c'est une tendance qui nous vient directement des États-Unis, hein, c'est comme l'éco-critique dont on parlait tout à l'heure. Donc oui, il y a quand même un certain temps qu'on se disait que ce serait bien quand même de traiter ce thème du monde animal chez Giono, parce que alors il y a des animaux présents dans toute son œuvre. Hein. Je crois que si on fait une collègue qui a dû faire une approche en tout cas du nombre d'espèces animales dont il est question dans l'œuvre, c'est plus de 150. Hein. Alors c'est les poissons, les oiseaux, animaux sauvages, animaux domestiques, mais surtout animaux sauvages d'ailleurs, hein, le loup, le sanglier, etc. Il y en a beaucoup dans l'œuvre de Giono. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que il va y avoir une évolution qui va suivre l'évolution générale de l'œuvre. C'est-à-dire que autant de collines, de regains, de comme à joie demeure surtout. Là, il y a la recherche d'une espèce de symbiose, de mélange. Je l'en parle, hein, de dans cette boue de vie faite d'arbres, de bêtes, d'hommes, etc. Bon. Et il va s'attacher à ça, mais ce grand mélange de l'homme et de la nature dont il va être amené à constater infailliblement la possibilité va aussi faire qu'avec les événements qui vont provoquer et son désir aussi de renouvellement de son œuvre, dans le renouvellement de son œuvre qui commence un peu avant la guerre et qui va éclaté après la Deuxième Guerre mondiale. Alors là, les animaux vont avoir encore un nouveau statut, vont devenir peut-être comme les paysages, un peu plus loin dans le décor, mais ils vont avoir un nouveau statut, peut-être plus symbolique aussi. C'est une tendance, c'est un trait de la littérature de faire des animaux un peu le miroir des humains et de traiter à travers eux aussi de la condition humaine. Chez Giono, d'ailleurs, les animaux sont rarement flatteurs pour les humains. Hein, ils renvoient plutôt une image défavorable de l'homme. Mais c'est surtout tous les aspects de l'animal dans la vie naturelle qui sont traités. Les luttes à mort entre animaux eux-mêmes, c'est les combats entre les hommes et les animaux. Hein, c'est toute la symbolique animale aussi. Et puis il y a cet extraordinaire série de textes qui s'appelle Bestiaire, où Giono va quelque sorte finalement faire une espèce de satire presque voltairienne des hommes et de la société de son temps en se servant du monde animal, d'une espèce de zoologie extravagante. Et on aura d'ailleurs toute une matinée consacrée au thème des bestiaires dans les rencontres, parce que c'est un thème tout à fait passionnant dans l'histoire de la littérature et qu'il y a beaucoup de productions actuellement de bestiaires.
Pendant 5 jours à Manosque, du 2 au 6 août, les 12e rencontres Giono, il y a du théâtre, des concerts, de lecture, du cinéma, des conférences, bien sûr, un café littéraire, des débats. Évidemment, ces rencontres portent formidablement bien leur nom, puisque ça permet justement de rencontrer des personnes. Et par exemple, moi, ça m'a permis de rencontrer Catherine Soulard. Catherine, vous êtes quelqu'un de connu dans le domaine, vous êtes écrivain, vous avez été productrice aussi pour... excusez du peu, France Culture pendant plus de 15 ans, et on est ravis de vous accueillir ici, dans une radio associative. Vous êtes aussi une comédienne, vous êtes passionnée de Jean Giono, et vous allez donner de votre voix pour lire des extraits pendant les rencontres de Giono, donc cet été, en août. Qui c'est pour vous, Jean Giono ?
Un ami, est-ce que je peux dire ça comme ça ? Oui, c'est quelqu'un qui me fait vivre, c'est quelqu'un dont la littérature m'habite, me passionne. On peut ouvrir n'importe quel livre de Giono à n'importe quelle page. Pour moi, c'est magnifique. Ça me transporte. Je trouve qu'on respire bien chez Giono. On respire bien. On est dans la nature, une nature qui est avec des gens, avec des hommes et des femmes qui sont fous. Enfin, qui ont leur folie particulière. On est au milieu du. Il y a du vent chez Giono. Il y a du vent et le vent commande. Il y a des sentiments et des sentiments qui sont hauts. Moi, je trouve qu'on respire bien et haut chez Giono. C'est à la fois très simple et très, très spirituel, très, très intérieur pour moi.
Il y a d'autres auteurs pour vous avec Giono dans votre Olympe ?
Dans mon Olympe, il y a Tchekhov. Il y a Tchekhov et Bernanos et Peggy.
C'est bien, c'est une voilà. Belle fréquentation.
Ça vous va ?
Oui, ça me va. Ça me va. Vous venez régulièrement depuis déjà pas mal d'années aux rencontres, oui. Giono. Qu'est-ce que vous y trouvez ?
Moi, alors ça, j'adore les choses qui se répètent comme ça, quand, enfin, quand elles sont agréables, hein, quand on...
Oui, vaut mieux.
Voilà. c'est le rendez-vous tous les étés, depuis 20 ans. Je crois que c'est peut-être la première fois que j'y suis venue, c'était en 94 ou 95, au moment où j'ai produit des émissions pour France Culture, au moment de cet anniversaire, du centenaire. Voilà. Et depuis, j'y viens tous les ans, et ben, parce qu'on retrouve des amis, on se retrouve ensemble, on parle de Giono, on navigue dans une œuvre avec des gens qui en savent plus que vous, autant que vous, ou moins, enfin bon, bref, mais c'est Giono qui nous unit. Et ben, c'est merveilleux. Et puis on est à Manosque.
Et oui, c'est quand, pas rien, Manosque, quand il dit quand même. Rue Dauphine ou Rue d'Aubette, eh bien, vous les voyez tout de suite, ces rues, voilà. Elles sont juste, oui, à côté de chez, oui, nous. Là, donc, et ça, c'est important. C'est le climat aussi. Vous avez parlé du vent. Le vent, c'est le Mistral, évidemment. Donc, nous, ça nous parle. C'est notre nom. C'est cette ambiance qui est particulière et qui est, on va dire, c'est une Provence qui est rude quand même, oui, celle de Giono.
Mais c'est la Provence que j'aime. Vous voyez, moi, j'ai une maison un peu plus bas, là, du côté de Draguignan. Et vous ne pouvez pas savoir, comme par exemple ce matin, j'étais heureuse de prendre ma voiture et de filer vers Manosque. Je préfère cette Provence basalpine avec cette austérité, cette dureté, la rocaille. Oui, je préfère ça. Je préfère ça à la Toscane.
Ça nous fait du bien d'entendre ça, Catherine, ici même. Ça nous fait beaucoup de bien.
Catherine oublie de dire aussi qu'elle a une de ses cousines... qui est une grande spécialiste de Giono, ce qui n'est autre que Mireille Sacotte.
Par exemple.
Qui a co-dirigé, oui, entre autres, le dictionnaire Giono.
Et absolument.
Qui a édité Giono dans la Pléiade. Et donc, je suppose que vous avez...
Même dans ma famille, voilà.
Voilà, même dans ta famille.
Même dans ma famille, on aime Giono.
On va vous retrouver dans un instant, Catherine. On va vous faire passer des travaux pratiques, puisque vous allez dire pendant les rencontres Giono. Jacques, il va y avoir une belle exposition, à moins qu'il y ait des choses à rajouter sur le programme. Mais
simplement,
on va survoler.
Donner quelques noms quand, oui, même. D'abord, la présence de Thibaut de Montalembert dans la lecture de deux récits de la demi-brigade. Vous avez vu que depuis quelques années, j'essaye d'avoir une soirée avec un acteur, disons, connu, entre guillemets. Thibaut de Montalembert s'est quand même récemment illustré dans un des principaux rôles de la série à succès 10% sur France 2. On aura aussi les récitals de Fables de La Fontaine par Alain Bauguil, qui depuis 15 ans tourne avec Edmond de Giono. Et là, c'est du su par cœur, c'est même pas de la lecture. Et d'ailleurs, on redonnera Edmond l'année prochaine, probablement. Il y aura aussi deux académiciens pour la première fois, mais qui sont pas du tout académiques, et qui sont des amis, Frédéric Vitou, de l'Académie française, qui va nous faire... C'est l'auteur du dictionnaire amoureux des chats, donc il va nous faire une petite histoire de la littérature sous le regard des chats. Chats que Giono ne met pas beaucoup, il préférait les chiens, mais il y a quand même quelques chats dans son œuvre. Et puis mon ami, grand ami Philippe Taquet, que je connais depuis 1991, et qui est le grand spécialiste de la paléontologie, mais surtout qui a été le directeur du Muséum d'histoire naturelle, qui s'est assis dans le fauteuil de Buffon, de Cuvier, même de Bernardin Saint-Pierre, qui a dirigé le muséum, et donc il y a beaucoup de choses à nous dire sur les animaux, la biodiversité, etc., etc.
Les animaux qui seront aussi en vedette à la médiathèque d'Herbès.
Alors, la médiathèque d'Herbès, qui fera écho, on est en train de monter une exposition sur la ménagerie énigmatique de Giono, donc avec beaucoup d'œuvres de Lucien Jacques, magnifique, qui a beaucoup traité ce thème animalier. Giono n'est pas un écrivain animalier, comme Genevoix ou Colette peuvent l'être. Et c'est un écrivain qui met en scène les animaux, mais c'est pas un écrivain animalier. Là, on peut dire qu'il y a une veine animalière chez Lucien Jacques qui sera exposée à la médiathèque d'Herbès, en même temps que des livres illustrés, en même temps que des photos de Giono avec les animaux domestiques ou familiers, et puis avec les images de Hans Sylvester, donc sur la Camargue, qu'accompagne le texte de Giono.
Alors avant d'écouter Catherine Soulard évoquer Camargue et ce magnifique texte de Jean Giono, simplement l'interview de Hans Sylvester que j'ai eu le plaisir d'interviewer il y a 2 ans déjà, et qui nous racontait sa première rencontre absolument incroyable avec Jean Giono. Il avait 22 ans à l'époque. Il s'est pointé à Manosque, il a sonné au Paraïs pour demander à Jean Giono de faire la dédicace de ce livre dont vous allez lire un extrait tout à l'heure, Catherine. Je vous propose d'écouter cette interview. C'était une interview réalisée pendant les Nuits photographiques de Pierre Vert, et il y aura même le président des Nuits photographiques, notre ami Stéphane Kosman, qui interviendra pour rétablir une vérité, et vous verrez, c'est pas piqué des verres à la fin de cet entretien.
En Sylvester, en 1958, un jeune photographe débutant débarque à Manosque, sur une mobilette en plus, je crois, et vient voir un grand écrivain, Jean Giono, pour lui demander d'assurer la préface et le lancement d'un premier ouvrage, le premier d'une longue liste, puisqu'il y en a eu au moins 49 autres qui ont suivi après, pendant toutes vos années d'exercice. Quel culot de ce jeune photographe que vous étiez à l'époque d'aller voir ce grand écrivain de Jean Giono. Comment vous est venue cette idée?
Mais en 57, à cette époque, Giono était beaucoup plus lu en Allemagne qu'en France. Et en plus de ça, ça faisait partie de l'éducation. À l'école, on lisait Jean Giono. Ce contact de Giono avec la nature, l'homme dans la nature, ça, il y avait une sensibilité après la guerre en Allemagne extrême pour ça. Donc il a eu des tirages vraiment énormes en Allemagne. Et c'était vraiment l'homme pour parler de la Provence. Alors quand j'ai fait les photos en Camargue et je les ai réunies dans une maquette, j'ai montré cette maquette à un éditeur allemand qui m'a dit « Moi, je suis prêt de faire le livre ». Si tu m'amènes un texte, une préface de Giono. Et deux jours après, j'étais en route avec la Vespa et je vais arriver à Manosque. Et alors, j'ai sonné chez Giono, sa femme m'a ouvert, et elle m'a dit, le maître, il travaille. On ne peut pas le déranger, le maître, il travaille. Alors, j'ai insisté un peu, et en disant que je viens de loin, que ça prend que 2 minutes pour lui montrer quelque chose. Et lui, il a attendu ça dans son bureau, il est descendu, il m'a ouvert la porte, il a regardé tranquillement la maquette, on a bu le café ensemble, et ça y est, j'ai eu la préface.
C'est un souvenir extraordinaire que vous gardez de Jean Giono?
Oui, parce que là, c'était une première rencontre, mais après...
Il y en a eu d'autres.
Il y en a eu d'autres, donc quand le livre est sorti, je lui ai amené.
C'est Camargue, hein, le livre Camargue, en question.
Une préface vraiment extraordinaire, je dois dire, il faudrait que tout le monde le lit, c'est fantastique. Et donc, je lui ai amené le livre, et à cette époque, Giono, il avait publié beaucoup de livres, mais pas de livres illustrés. C'était nouveau pour lui. Donc, un livre avec les photos, et il a eu vraiment un énorme plaisir d'avoir ça en main. Et c'était très bien imprimé en Helio, en Suisse, donc c'était bien soigné. Et il était vraiment heureux. Et après, on s'est vu régulièrement encore, et chaque fois, c'était...
Toujours ici, à Manosque, au Paraïs, chez Giono.
À Manosque et à Lure.
Et aux rencontres de Lure, évidemment.
Aux rencontres de Lure. Donc, c'était chaque fois ici, et c'était... Chaque fois, je suis parti très, très, très impressionné.
Stéphane Kosman.
Je crois que tu as oublié de souligner. Il y a quand même eu un petit nuage ce jour-là, non? On t'a piqué ta moto?
Non, mais... non, c'était avant ça. Non, c'était avant. C'est une nuance triste.
Ils ne sont pas voleurs à Manosque. Allons, Stéphane. Allons.
C'est arrivé à Marseille.
En plus, voilà.
À Marseille.
Donc, surtout ne pas confondre.
Hans Sylvester, c'était il y a 2 ans en plateau à Pierre Vert. Donc sa mobilette, sa moto lui a été volée à Marseille et pas à Manosque. On va suivre le conseil d'Hans Sylvester qui dit il faut lire Camargue pour tout le monde. Catherine Soulard, vous allez lire vous-même Camargue. On vous laisse lire un extrait de ce beau texte.
D'accord, très volontiers. Revenons aux oiseaux puisqu'on parle de beauté. Ils sont des milliers de toutes races, de toutes plumes, de toutes couleurs. Il n'est pas un îlot perdu du lointain Atlantique qui ne délègue ici son fou de bassan, sa mouette trieuse, son goéland pygmé, son hirondelle de mer ou sa griffette noire. Le cormoran, la harle huppée, le hareld de miquelon, le plongeon, le vanneau, le bécasseau, le tournepierre, la guignette, mélangent dans 1000 sortes de vols le rouge, le vert, le bleu, le jaune, l'orange, le noir, le blanc pur et ce gris d'iris dans lequel toutes les autres couleurs se résolvent. Jusqu'au paradisier connu sous le nom de Sifilet, qui porte de chaque côté de la tête 3 plumes étroites, extraordinairement prolongées, et sur ses flancs, le beau vernis émeraude qui vient ici faire le mousquetaire et se friser la moustache. Certains sont réputés ne vivre que dans de lointaines Sibéries. ils sont là. D'autres, comme le couroucou à tête d'or ou le cotinga bleu, ont besoin des savanes et des fleuves à alligators, et ils sont là, dans ce pays de sable nu, de joncs et de petits lézards. Il y a même le touracos, cette sorte de phénix, cet oiseau rouge qui déteint dans l'eau. Si le touracos se mouille et s'il se frotte dans le sable devient rouge, et le touracos devient blanc. Mais dès qu'il sèche, il redevient rouge. Les mêmes faits ne se produisent plus sur la dépouille morte et desséchée de l'oiseau. Il y a les martinets, les cailles, les grues, les cigognes, les oies, mille variétés de canards, tous migrateurs et voyageurs, qui viennent ici muer et se renforcer la plume. Il y a ceux qui viennent des forêts, depuis la plus noire à la plus vermeille. Il y a les oiseaux des steppes, ceux des bords de la Léna, ceux des bords de la Moudaria, ceux de l'Euphrate, ceux de la route de la soie, ceux des Kerguelen et des Terre-Neuve. On trouve en colonie plusieurs centaines le pinson de Punta Arenas, et la gélinotte de Magellan tourne dans le bleu pur du ciel comme elle tournait éperdument dans les orages et les tumultes du canal de Beagle. Le courlis des glaciers voisine avec le traquet des sables. Les carouges et les troupiales de l'Amérique construisent ici leurs nids en forme d'alambic, comme ils les construisent sous les tropiques pour protéger leurs couvées des mammifères grimpeurs. Certains creux de dunes cachent à la fois le nid de la veuve à collier d'or qui ne contient jamais d'œufs et celui de la Pénélope noire qui en déborde. Et il y a des indigènes, les gens d'ici, la piétaille qui hante les Chaumes et les Génoises, de Carpentras à Montpellier, de Sète à Marseille, de Vauvert à Lambesque, le coucou, le verdier, la mésange serrurier, la mésange tête noire, la bergeronnette, le pique-bœuf, le pinson, le merle, la grive, le rossignol, le chardonneret, le bouvreuil, l'alouette, le rouge-gorge, la pie, et enfin le moineau. Le bon moineau gaulois, le plus paresseux des oiseaux, qui vit dans la société de l'homme, pullule dans les villes et garde ici ses habitudes d'oisifs et de citadins.
Un extrait de Camargue par Catherine Soulard. Quelle belle langue, quel vocabulaire incroyable, et puis des connaissances aussi bien ornithologiques que géographiques, Jacques.
Il y a toute une section de livres sur les oiseaux dans la bibliothèque de Giono, qui sera exposée en partie à la médiathèque d'Herbès. Et ça m'amuse beaucoup parce que ces listes, il y a des listes d'oiseaux dans ces livres, et Giono a mis des signets. Alors, à vérifier qu'il ne recopie pas, en rajoutant de sa sauce autour, ces listes. Mais c'est ça, c'est ce qu'il appelait « composer mes documents imaginaires avec des documents réels ». Bien sûr qu'il a besoin de documentation, ça l'amuse beaucoup.
Mais vous avez trouvé un moineau gaulois dans cette liste?
Ah, mais le moineau est gaulois par définition.
En tout cas, c'est magnifique. C'est un texte, ce sont des textes que vous allez lire, Catherine, pendant les rencontres.
Oui.
Quel jour vous allez lire?
Le vendredi 4 août.
Voilà. Le Il y aura des textes de Giono vont rythmer entre les conférences, les débats, les dialogues, les rencontres, vont rythmer donc les rencontres Giono. Donc, lu par Geneviève Esménard le
jeudi
3, par Catherine Soulard le vendredi 4, avec chaque soir des lectures. Et il y aura même une lecture d'archives par Jacqueline Hirsch et Daniel Lanivelle, qui se terminera par un texte d'Edmond, toujours, sur les abeilles.
Ah, cette image incroyable, quoi, de l'attaque du...
L'attaque de Norésira par les abeilles.
Par les abeilles. On arrive à la fin de cette émission, Jacques. On a quelques infos à faire passer, quand même, outre ces rencontres. Giono, qui a été le martyr de certains étudiants, c'est ça?
Oui, et collégiens.
Et collégiens.
Puisque non seulement il a été deux fois au programme, mais surtout sujet d'allégation avec les âmes fortes, hein, la dissertation de lettres classiques et de lettres modernes. Et en effet, les collégiens ont passé l'épreuve de français du brevet des collèges avec un texte tiré des vraies richesses.
C'était une blague, évidemment, quand
il
disait martyr.
Il semble que sur les réseaux sociaux, plusieurs aient maudit Giono.
Oh, les pauvres. Bon, ça va changer, j'espère. Et puis un autre sujet important, Jacques, c'est l'acquisition... quasiment bouclé de la bibliothèque.
L'acquisition, le financement est bouclé. J'attends juste le reversement de la souscription auprès de la Fondation du patrimoine pour signer définitivement au nom de l'Association des Amis de Giorgione l'acquisition de la bibliothèque. C'est une question de jour. J'espère et je pense que ce sera fait avant la fin de ce mois. En tout cas, je souhaite que ce soit fait avant notre prochaine Assemblée Générale du mois d'août. Donc, acquisition de la bibliothèque, des meubles, des objets familiers de Giorgione qui va...
Tout ce patrimoine qui restera à Manos, qui est à la charge, évidemment, de l'Association des Amis de Giorgione.
On a bouclé cette phase, puisqu'on est déjà entré dans d'autres phases comme l'aménagement, le projet d'aménagement et de gestion des jardins et du bâtiment.
Une bonne chose. Merci encore Jacques Méni d'avoir été mon complice pour ces émissions. C'est la 48e, je le signale. Elle sera disponible sur notre site internet très prochainement. Merci aussi Catherine Soulard. On vous reverra évidemment avec grand plaisir pendant les rencontres Giorgione. Merci aussi à Evan pour la régie. Dans un instant, les infos nationales et internationales, certainement moins souriantes que ce que je viens de raconter, avec Radio France Internationale. À bientôt.
Merci François, à bientôt. Surtout à tout à l'heure, à 15h. Au revoir.